tous ce matin dans ce temple, cette maison, ce foyer. Qui que vous soyez, quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi, et même si vous dites que vous n'en avez pas, que chacun de vous se sente accueilli, ici vous êtes chez vous. Quand chacun monte du plus profond de lui-même, d'elle-même, la paix, la joie et la grâce, et qu'elle se répande dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être tout entier. Et dans ce culte, eh bien, voici le moment de la louange. Pour cet éclat de lumière qui transperce les ténèbres dans lesquelles nous pourrions errer sans fin. Pour cette senteur de bonheur qui parvient dans les plus reculés de nos arrière-cours. Pour ce goût de la vie qui persiste par-delà la fadeur des désillusions et des regrets, pour cet effleurement de tendresse sur nos rides, sur nos blessures et sur les bleus de notre âme, pour cet écho de ta parole qui résiste dans la cacophonie de nos contradictions, pour le sens donné à nos existences, de grâce en bénédiction, loué sois-tu, ô notre Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 36 les deux premières strophes. Nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques mots de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Par amour, faites-vous serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous entrons dans la prière de conversion, nous nous tournons vers Dieu. J'ai besoin de joie dans mon cœur, ô mon Dieu, et de te rendre grâce. J'ai besoin de paix dans mon cœur et de prier encore. J'ai besoin de vie dans mon cœur, afin d'aimer encore, chaque jour, jusqu'au bout de mes jours. Je t'en prie, ô mon Dieu, mets la vie dans mon cœur, afin que je comprenne le monde. Mets la paix dans mon cœur, afin que je ne craigne pas de te prier encore. Mets la joie dans mon cœur, afin que j'aime encore, chaque jour, jusqu'au bout de mes jours. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce avec ces anciens mots du XVIIe siècle, les mots d'Angelus Silesius. Approchez-vous de Dieu comme d'un soleil rayonnant. Il éclaire, il réchauffe, il donne la vie. Quant à lui, il s'approche de vous comme il s'approche de la terre, et votre cœur deviendra le plus beau des printemps. Amen. Et nous allons chanter le cantique qui se trouve sur la petite feuille que vous avez trouvée dans les livrets. Alors c'est une première que ce cantique soit chanté. C'est le cantique qui est associé à la cantate qui sera jouée ici cet après-midi, puisque c'est le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de la cantate. Et il y a donc un cantique associé, mais qui n'existait pas, qui n'avait pas de parole en français. Donc, grâce à Frédéric, on s'est un peu dépêché depuis 2 semaines pour lui trouver des paroles, et c'est donc celle-ci que nous vous proposons. Nous allons d'abord écouter la mélodie, et puis après, nous lancerons. une grande joie et un grand honneur d'accueillir ici ce matin Olivier Abel. Merci d'être venu, d'avoir fait le chemin de Nîmes pour devenir parisien une journée et nous parler de la prédestination. La prédestination, qui sait ? Donc dans ce quatrième culte conférence de notre cycle 2020, donc dont le thème était « Je ne sais pas », eh bien c'est à toi maintenant de nous emmener et de nous éclairer sur cette question ô combien délicate.
Merci Dominique, merci pour votre accueil, je suis très heureux, très ému. Et j'espère ne pas trop vous décevoir. Moi-même, je ne sais pas très bien qui je suis ici. Est-ce que je suis ici comme philosophe ? Est-ce que je suis ici comme chrétien ? Est-ce que je suis ici comme professeur dans une faculté de théologie ? Là, je suis moi-même un peu équivoque. J'avais envie de commencer par les mots « mes amis ». L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, dit « mes amis » comme ça. Et c'est une adresse que j'apprécie, qui était souvent utilisé par Paul Ricoeur quand il présidait le mouvement du christianisme social il y a une grande AG en 1959. Et voilà, à plusieurs reprises, il dit mes amis, un peu pour raccrocher des wagons, si je peux dire, pour dire qu'il se hasarde aussi, pour montrer qu'il prend un risque et qu'il a besoin de l'amitié de ceux qui sont là. Parce que aussi, je ne sais pas très bien qui je suis ici, mais je ne sais pas très bien qui vous êtes tous. Voilà. J'ai fait de la prédestination le moment central de cette méditation autour de quelques textes que vous avez dans le petit livret. Donc c'est une méditation sur la prédestination, c'est le moment central. Mais je vais partir carrément de l'Antiquité et de la question justement du je ne sais pas des philosophiques pour à la fin, après la prédestination, revenir à nous aujourd'hui. Donc vous voyez, je vais prendre la prédestination dans un ensemble plus vaste. Je pensais en préparant cette réflexion, je pensais le je ne sais pas, je le rapportais aussi tout de suite à la philosophie de Kant, avec cette formule très curieuse qui a fait beaucoup couler d'encre lorsqu'il dit j'ai limité le savoir pour faire place à la foi. À la foi, à la croyance, mais on pourrait dire aussi j'ai limité le savoir pour faire place à la pensée simplement, ou faire place à l'agir. J'ai limité le savoir pour faire place au sentir, à la sensibilité. J'ai limité le savoir pour faire place au désir, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire que peut-être que justement, la philosophie, c'est une connaissance restée désir. Désirer savoir, mais ne pas savoir. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très radical. Et j'irais presque dans une racine commune à la philosophie ou au christianisme, quelque chose de très profond dans cette ignorance de départ. Je commence par Socrate, justement, Socrate, le maître ignorant, hein, qui sait qu'il ne sait pas. Hein, on a une petite texte, le texte numéro 3 hein, que vous avez dans votre... c'est un petit texte de l'Apologie de Socrate, où il dit « Voilà un homme qui est moins sage que moi ». Enfin, c'est Platon qui le lui fait dire. Hein, bon, c'est un... « Il est possible en effet que nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien de beau ni de bon, mais lui, il croit qu'il sait alors qu'il n'en sait pas, tandis que moi, tout de même qu'en fait je ne sais pas, pas davantage, je crois que je ne sais. Et donc au moins, sur ce point-là, ce que je ne sais pas, je ne croyais pas non plus le savoir. » Donc il y a cette ironie socratique dont Kierkegaard disait qu'elle faisait le vide, qu'elle était comme une préparation. Pour une préparation, justement, à quelque chose qui nous échappe. Je ferai une citation du Ménon quand il dit « Ainsi donc, chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant des choses qu'il ne sait pas, des pensées vraies. Et à présent, ces pensées viennent de se lever en lui à la manière d'un rêve, comme s'il y avait quelque chose que nous ignorons et qui est là en nous plus profond, etc. Bon. » Voilà, mais la philosophie, c'est pas seulement Socrate et Platon. Et comme je travaille en ce moment beaucoup sur autour du philosophe Pierre Hadot, H-A-D-O-T, je me suis dit qu'il fallait remonter un petit peu, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ces questions, de l'exercice du doute, on va dire, de l'exercice spirituel. Avant Socrate, avant Platon, je voudrais remonter à Parménide, carrément. C'est vraiment le père de la philosophie, si je puis dire, qui dit « On ne peut ni dire, ni penser le non-être. » Ça veut dire qu'on ne peut dire et penser que l'être. D'une certaine manière, l'être, c'est l'un, l'apparaître, c'est le multiple. Alors, pour Platon, on va faire la dialectique va consister à tisser, à mixer, à remonter du multiple vers l'un et à redescendre de l'un vers le multiple. Bon, mais il y a d'autres chemins possibles. Il y a le chemin des cyniques, Diogène, vous savez, dans son tonneau, hein, c'est dans lequel on va pulvériser l'un dans le multiple, il n'y a que du multiple, et une sorte de silence par dispersion. De toute façon, comme disait Antisthène, on va se taire, on ne sait rien, parce que de toute façon, on ne parle même pas de la même chose. Personne ne parle de la même chose. Donc le langage, c'est pour rien. Vous voyez, c'est très radical. Et puis de l'autre côté, au contraire, on va dissoudre le multiple dans l'un, et soit par cette voie positive qui est celle de Parménide, il n'y a que l'être, de toute façon on peut penser que l'être, il n'y a que ce qui est, soit par cette voie qu'on a dite apophatique, hein, négative, par l'ignorance, qu'on trouve déjà chez le sophiste Gorgias qui dit « l'un n'existe pas, s'il existe, on ne peut pas le penser, et si on peut le penser, on ne peut pas le dire. » Donc de toute façon on est coincé. Et de ça, il y a toute l'école sceptique qui va sortir de ça, avec Pyrrhon. Nous ne connaissons plus tellement Pyrrhon, le pyrrhonisme. Hein. Pyrrhon qui dit que la sagesse, c'est le silence, c'est l'examen sceptique. Il s'agit de dissoudre les problèmes, de suspendre le jugement. En gros, tout revient au même. Et Pyrrhon, c'est vraiment le scepticisme, non seulement cognitif, mais même, je dirais, moral. On ne sait rien, on peut dire, on ne peut rien juger, etc. Voilà, donc, chez tous ces auteurs de l'Antiquité, je vais abréger ça, on a affaire aux limites du langage humain. Hein, ce qui est, on ne peut pas transgresser ces limites du langage humain, sauf à penser une sorte d'arché, de langage arché, de langage d'ultra-langage, qui serait peut-être la langue des idées, hein, chez Platon, mais en général, plutôt, on a affaire à une sorte de sens sceptique de se soucier de son âme, en quelque sorte, hein, mais ne pas croire qu'on peut accéder à cette science, à ce savoir. Donc, la question « que sais-je ?», qui est la question socratique, qui est la question sceptique, qui conduit à « je ne sais rien », je sais que je ne sais rien, je vais maintenant la croiser avec la question « qui suis-je ?» qui me semble être la question de Jésus. Hein, donc, qui dites-vous que je suis ? Mais ça veut dire aussi « qui es-tu, toi ? » qui sommes-nous devant Dieu ? Et qui d'ailleurs a à voir avec la question « tu crois que tu ne peux pas, mais tu peux ?» Je ne vais pas développer ça, mais je crois que la grande originalité de Jésus, c'est de nous dire un « tu peux ». Et notamment, « tu peux » un miracle, et ce miracle, c'est « tu peux pardonner ». Ouais, c'est une autre question, je ne vais pas développer ça ici. Non, parce que c'est Hannah Arendt qui dit « Socrate a fait des découvertes extraordinaires sur les pouvoirs de la pensée qui questionne, de la pensée qui creuse à travers l'ignorance ». Et Jésus, il a fait des découvertes extraordinaires sur les pouvoirs de l'agir à partir du pouvoir de pardonner. Parce que le pardon, c'est une réaction qui est imprévisible. Et donc, l'action, la tige de l'action commence dans le pardon. Si on sépare l'action du pardon, il n'y a plus d'action possible, d'une certaine manière. L'action, elle est nécessité, elle est déterminisme, elle s'enchaîne, etc. Le pardon est ce qui fait bifurquer l'action sans cesse, en dehors des nécessités prévues. Je ferme cette parenthèse. Voilà, donc, je dirais, maintenant, à travers Jésus, à travers Paul aussi, à travers la tradition chrétienne, on a même un deuxième affluent, ou un fleuve, je ne sais pas, qui vient rejoindre le premier, et qui nous vient des sources bibliques, hein, qui sont elles-mêmes, je ne voudrais pas opposer des sources grecques et des sources bibliques, et la pureté des unes ou des autres. Tout ça, c'est très mixte, bien sûr. Bon. Mais là, on va venir sur les sources bibliques à partir du texte numéro 1 que je vous lis, hein, c'est la Genèse, le chapitre 2, les versets 15 à 18. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Une aide, on va dire un secours. Hein, Dominique disait un secours vital. Hein. Donc on a à la fois un interdit de savoir qui est fondateur, hein, ne pas savoir, sinon on touche la mort, hein, ne pas savoir quand on va mourir. J'ai envie de dire aussi, c'est une parenthèse, mais ne pas savoir, ne pas se faire, pour moi un lien avec ne pas se faire d'image, ne pas se faire d'image de Dieu, ne pas se faire d'image de l'homme d'une certaine manière. Hein, on n'a pas, ne pas se faire une image de soi-même, ne pas se faire une image du bébé qui est à naître, hein, qui aujourd'hui on croit qu'on sait tout d'une certaine manière. Vous voyez, c'est ce genre de. Et donc là, on a un nœud qui est très intéressant. C'est de non-savoir, de non-maîtrise, et qui est lié à la place de l'autre. Hein, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que juste après cette question-là, apparaît la question de la solitude et du besoin pour l'homme d'être avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça c'est tout à fait intéressant. Je le réserve pour plus tard. Le texte numéro 3 que j'ai... Non, le texte numéro 2, excusez-moi, que j'ai proposé, c'est un texte de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 23 à 26. Tout cela, je l'ai mis à l'épreuve par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais elle reste loin de moi. Lointain est ce qui est, profond, profond, qui peut le trouver ? Je me suis appliqué à savoir, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à savoir que la méchanceté est stupide et la folie démente. Or, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme, qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur sera pris par elle. Ouh là là. Je me suis dit, bon, au début je voulais enlever ça. Je me suis dit, non mais c'est intéressant, pourquoi est-ce que c'est, là encore, c'est collé ensemble. C'est, pourquoi ce thème est collé ensemble. Vous voyez, bon, il y a, on a affaire à une sagesse tragique, on va dire, voilà, c'est juste, c'est pas une théorie, c'est pas un savoir, c'est pas une connaissance, c'est juste un savoir-vivre, savoir qu'on est ignorant, savoir qu'on est méchant, savoir peut-être qu'on est bête, hein, savoir qu'on est fou, hein, c'est ça la sagesse, hein, c'est de savoir tout ça. Et juste après, coller à ça, cette question de la... Et cette inaccessibilité, hein, du savoir, c'est profond, c'est inaccessible, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, la femme elle-même, c'est, voilà, c'est, elle est amère, c'est comme la mort. Voilà. Alors maintenant, je passe à Jésus, sans transition, hein, mes transitions seront très mauvaises. Hein, je passe à Jésus. Jésus, un peu comme Socrate, il y a une dimension d'ironiste chez Jésus. C'est-à-dire, en fait, il retourne la question. Hein, il est sans doute lui-même, d'ailleurs, à la croisée des deux traditions, à la fois biblique, bien sûr, mais aussi grecque, parce qu'il est dans un contexte hellénistique. Hein, bon. Et donc, quand il dit aux pharisiens, « Si vous étiez aveugle, vous seriez sans péché », mais vous dites, nous voyons, ainsi votre péché demeure, hein, Jean 9, 40. Vous voyez, c'est, là encore, on a ce retournement, ceux qui croient savoir ne savent pas, et ceux qui ne savent pas, bah, au moins, quand ils l'avouent, qu'ils sont aveugles, qu'ils ne voient rien, bah, au moins, ils savent ça. Alors, maintenant, le texte numéro 4 que je vous ai mis, ce long passage du chapitre 1 au chapitre 2, hein, c'est très très long. Je résume ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est la sagesse du monde, c'est une folie. La folie de la croix, la folie de la résurrection, c'est la sagesse de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu a choisi ce qui est faible, ce qui est vil, ce qui est pas seulement humble, mais humilié, ce qui est autre chose. Et donc ce n'est pas par un langage supérieur, mais en laissant place, je dirais, à une sagesse cachée, une sagesse secrète qui ne se voit pas, qu'il y a en s'appuyant sur quelque chose que l'idée que Dieu sait depuis toujours, hein, des choses que nous savons, que les humains dans leur vanité ne savent pas, qu'on approche la question. Et alors à la fin de ce texte, il y a quand même. Ben nous on sait. Nous, on sait, nous avons la pensée du Christ. Alors, est-ce que cette pensée du Christ, c'est une pensée... Est-ce que nous, on est dans l'Esprit de Dieu ? Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit positif qui nous dit la vérité, qui nous donne le savoir ? Enfin, on est dans le savoir de l'Esprit de Dieu, hein, la manière qu'il y a... de l'intérieur de moi, c'est mon esprit. Hein, bon, est-ce que je peux me mettre dans l'Esprit de Dieu ? Est-ce que l'Esprit me donne, je dirais, les intentions de Dieu ? Est-ce que les voies du Seigneur me sont ouvertes ? J'ai envie de dire non, je pense pas. Mais parfois, là, Paul, il est pas très loin de ça. Dans ce texte-là, il y a quelque chose qui me semble soudain excessif, si vous voulez, dans l'assurance qu'il donne. Il y a beaucoup de passages où on a des allusions à ce ne pas savoir. Hein. Nous connaissons en miroir, hein, par exemple, hein, seulement en miroir, ça c'est très platonicien. Il y a cette inversion du savoir qui est une ignorance, mais de la sagesse, la folie qui devient sagesse, la sagesse qui devient folie. C'est comme si chez Paul, on avait affaire à un monde en négatif, dans lequel tout s'inverse. On a sans cesse des espèces d'inversion de valence, de valeur, etc., qui caractéristique de Paul, qui nous fait voir du coup la réalité complètement autrement. Imaginez qu'ici, soudain, nos yeux nous montrent les couleurs inversées, si je peux dire. C'est un peu ce que fait Paul. Il y a un côté, le monde ordinaire devient un monde tout à fait bizarre, tout à fait étrange, et aussi un retournement, un monde complètement extraordinaire, étranger, qui devient ordinaire, qu'on voit, etc., quelque chose comme ça. Je continue mon parcours rapide. Grégoire de Nice, Clément d'Alexandrie vont sans cesse insister sur cette dimension apophatique, c'est-à-dire justement, on ne peut pas dire ce que Dieu est, on ne peut dire que ce qu'il n'est pas, donc là aussi, je ne sais pas. On va déconstruire, impossible parler, impossible penser Dieu. Hein, Plotin d'ailleurs disait, nous disons ce qu'il n'est pas, nous ne disons pas ce qu'il est. Hein, bon. Et donc, on a d'un côté un Dieu inconnaissable par nous, inaccessible, qui est une totale, absolue altérité, sauf par le fait qu'il s'auto-révèle de lui-même dans l'incarnation. Voilà. Ça, c'est un balancement constant de la théologie chrétienne, et Augustin, et je vais à peu près terminer mon premier moment là-dessus, Augustin, on est dans l'incessante interrogation, confession, supplication à Dieu, dans laquelle, voilà, le doute, le ne pas savoir, et je dirais c'est comme l'aiguillon. Vous voyez, là, vraiment, il y a une synthèse de la tradition philosophique, dans ce cas-là, le plus actif, le plus vif, et de la tradition biblique, qui est, avec cette dimension, je dirais, très subjective, très forte, hein, qu'est-ce que le temps, si on ne le demande pas, je le sais, mais si on me le demande, je ne le sais pas, par exemple, dit Augustin, ou bien je doute, donc, si je me trompe, si falloir sum, si je me trompe, je suis. C'est à travers l'ignorance, c'est à travers le ne pas savoir que la sagesse et que la foi se fait un chemin. Alors après ce long préalable sur la philosophie antique et sur le christianisme ancien, j'en viens au moderne et j'en viens à la réforme. Et à ce que devient ce thème d'une sorte d'ignorance transcendantale, hein, d'ignorance radicale dans la pensée moderne. Je ferai une parenthèse, là je dirais, la pensée moderne, c'est déjà une pensée aujourd'hui très oubliée. Hein, nous croyons être moderne, la modernité, pour moi, elle est très liée à la réforme, et elle est très oubliée. On est dans une toute autre époque, d'une certaine manière. On y reviendra. Alors, là, la ligne apophatique, c'est-à-dire qui parle de ce qu'on ne sait pas, qui dit juste, qui ne peut juste que dire ce qu'on ne sait pas, va se... D'un côté, elle s'est poursuivie avec Nicolas de Cuse, avec Jean de la Croix, avec Angelus Silesius, par exemple, justement Jacob Böhm, tous ces auteurs. Mais la réforme, elle introduit autre chose, elle introduit une inversion, c'est-à-dire une conscience très aiguë de la finitude humaine, des limites humaines, des limites de l'intelligence humaine, des limites de la volonté humaine, et donc une sorte de retournement, puisqu'on touche à ses limites et on revient à nous. Revenons à nous, à là où nous en sommes. Et c'est là que la prédestination est, je dirais, le lieu à partir duquel, le lieu de pensée, hein, le concept, à partir duquel on peut penser et dire et montrer, je dirais, les effets de cette limite constitutive du sujet. La prédestination donne pointe la limite constitutive de la subjectivité, de ce que j'appelais la subjectivité moderne, une sorte d'ignorance transcendantale constitutive. Alors c'est le lieu de certains des plus lourds malentendus autour de Calvin notamment, mais la prédestination est un vieux thème biblique chez Paul, toute la philosophie, toute la théologie médiévale, Saint Bernard, etc., parle de la prédestination, hein, donc Calvin n'a rien inventé. Mais il le relie complètement autrement, et c'est là qu'il y a un problème, parce que justement c'est lié à la question de la liberté chrétienne, et vous allez voir comment. Donc dès 1551, il est en querelle avec un certain Bolsec, qui dit en gros, si Dieu nécessite les réprouver, je prends le mot même de Bolsec, eh bien ça veut dire qu'il est l'auteur du mal, et ça c'est insupportable. Donc Calvin se trompe. Et Calvin dit, mais non, mais c'est pas du tout ça, j'ai jamais dit nécessité, où est-ce qu'il va chercher ça? Prenez le fragment numéro 5, hein, sur des scandales. Je ne m'arrête pas beaucoup à remontrer le tort que nous font nos adversaires en nous imposant que nous sommes comme les philosophes stoïques du temps passé, qui assujettissaient la vie des hommes aux astres, ou bien imaginaient je ne sais quel labyrinthe de causes fatales qu'ils appelaient. Nous laisserons telle rêverie aux païens, et la prédestination de Dieu n'a rien de commun avec cela. Vous voyez donc, Calvin, dès le début, dit, mais attendez, là, il y a un malentendu, on ne parle pas du tout de ça. Bolsec, lui, il n'en démord pas, il va d'ailleurs retourner au catholicisme, et il va écrire la première vie de Calvin, dans laquelle Calvin, il est complètement paillard, buveur de vin, amateur de femmes, etc. Enfin, c'est la première vie de Calvin, c'est absolument extraordinaire. Il faudrait la rééditer. C'est pour nous changer un peu l'image de Calvin. Alors, pourquoi est-ce que Bolsec écrit ça? Ça a à voir profondément avec, justement, cette querelle autour de la prédestination. C'est très cohérent, en fait. C'est cohérent, parce que s'il y a la prédestination dans le sens qu'il comprend, qu'il croit être celui de Calvin, eh bien, s'il y a ce déterminisme-là, eh bien, nous sommes complètement irresponsables, donc nous sommes immoraux. Quelqu'un qui croit à la prédestination, c'est quelqu'un qui va devenir complètement immoral. C'est cohérent. D'ailleurs, de toute façon, pour la polémique catholique de l'époque, les protestants étaient tous des débauchés, puisque la morale ne servait plus au salut, donc en fait, les protestants n'avaient plus besoin de morale. Et donc, ils étaient délivrés de la morale, et les protestants étaient tous des débauchés. C'est ça le cœur de du débat. Donc, non, c'est important de comprendre que pour Calvin, la grâce est plus radicale que les loteries du destin, plus radicale que tous les destins. Au contraire, la grâce casse les déterminismes et les destinations. Donc en gros, ce qu'on trouve, d'ailleurs Calvin dans la dernière version de l'institution de la religion chrétienne, a déplacé le petit chapitre sur la prédestination, qui était lié à celui sur la providence, pour le mettre exprès bien ailleurs, pour qu'on ne mélange pas la providence et la prédestination. Il y a une doctrine de la providence, de la préscience. Hein, la providence, c'est la puissance divine de gouverner le monde. La préscience, c'est l'intelligence divine de connaître le monde, de savoir, d'anticiper, etc., de se souvenir et d'anticiper. Bon, ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez Leibniz, etc. Bon, donc, ça c'est d'un côté, ça c'est dans le monde. Mais là il s'agit de tout à fait autre chose, c'est la prédestination concerne seulement le salut du sujet en tant que sujet du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de ce monde, il ne s'agit pas de providence. Il s'agit de savoir ce que nous sommes devant Dieu. Donc ce que dit la prédestination, c'est sur un tout autre registre que le registre du déterminisme ou de la nécessité, etc. Que dit-elle? Elle dit deux choses. D'une part, elle dit qu'il ne faut pas savoir, qu'il ne faut pas chercher même à savoir, à pénétrer du jugement de Dieu. Parce que c'est se jeter follement dans le labyrinthe du jugement divin, dit-il, et que donc on y meurt, on y devient fou. Il ne faut pas s'occuper de ça. Mais d'autre part, il faut garder à l'esprit la gratitude que si on est sauvé, c'est par grâce, et que ce n'est pas par nos mérites. Donc il faut, vous voyez, c'est compliqué, parce qu'il faut en même temps ne pas s'en soucier, et en même temps garder de la gratitude, sans se souvenir que c'est par grâce. Ça fait un truc un peu bancal. Voilà. Et, comme toujours chez Calvin, il y a très peu de doctrines chez Calvin, il y a très peu de théologie chez Calvin, c'est pas un théologien en fait, Calvin. C'est très pragmatique. C'est qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce texte biblique? Qu'est-ce qu'on fait même de cette doctrine théologique, la Trinité? Qu'est-ce qu'on fait de la prédestination? Qu'est-ce que ça nous fait? Et voilà, donc du coup, il faut en régler le sens à partir de l'usage. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut ni être dans l'angoisse du souci de soi, du souci du salut. La prédestination, dit-il, c'est une doctrine douce et savoureuse. C'est comme chez Luther, c'est l'idée d'un grand désangoissement. Il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas s'en soucier. Il faut confier ce souci à Dieu. Ce n'est pas notre souci. Mais en même temps, il ne faut pas être dans une quiétude, d'une tranquillité complètement ingrate et indifférente. De toute façon, j'ai le pardon de Dieu, donc de toute façon, on n'a rien à en foutre. En gros, peu à peu, ça non, il y a une part tragique. On ne sait pas. Dieu, on ne sait pas, même, on a presque une image tragique au sens des tragiques grecs. Dieu peut être méchant, et même simplement sa justice, elle est terrible. Donc, nous, on ne sait pas, Dieu peut ne pas pardonner, si vous voulez, ne pas agracier. Donc, faut pas, Dieu, ce n'est pas forcément le bon Dieu, si vous voulez. Bon. Donc, voilà, la question de la prédestination croise ces deux choses. Vous avez ça dans le texte numéro 6, qui est le texte principal que je vous donne. La question de la prédestination est, par la curiosité des hommes, rendue enveloppée et perplexe, et même périlleuse, parce que l'entendement humain ne se peut réfréner ni restreindre, qu'il ne s'égare en grand détour et s'élève par trop haut. Vous voyez, il dépasse ses limites. Il faut qu'ils leur souviennent que quand ils enquièrent de la prédestination, ils entrent au sanctuaire de la sagesse divine, auquel si quelqu'un se fourre et ingère, il entrera en un labyrinthe où il ne trouvera nulle issue. Et que nous n'ayons point honte d'ignorer quelque chose en cette matière, où il y a quelque ignorance plus docte que le savoir. Et l'ignorance est plus docte que le savoir. Mais d'autre côté, il faudra donc que nous ne cherchions pas les choses que Dieu a voulu être cachées, mais aussi, donc de l'autre côté, que nous ne négligions pas celles qu'il a manifestées, de peur que d'une part, il ne nous condamne de trop grande curiosité, ou de l'autre, d'ingratitude. Vous voyez, il faut godiller, osciller entre ces deux abîmes. Trop s'inquiéter, trop se soucier, trop vouloir rentrer dans le jugement de Dieu, non. La grâce, c'est l'insouciance de la grâce. La grâce nous donne cet insouci de soi. Une fois, j'en parlais avec Jacques Ellul, j'ai dit, mais finalement, le salut, ça vous, c'est pas tellement votre question, il ne pas du tout. Vous voyez, c'est un souci de soi. Bon. Mais d'un autre côté, oui, mais en même temps, gratitude. Il faut sans cesse mesurer tout ce qui nous est donné. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est quelque chose qui est en même temps que je dois reconnaître. Donc, la question de la prédestination croise la question « qui c'est ?» et la question « qui suis-je ?» Et elle va avoir des effets gigantesques. C'est ça que je vais un tout petit peu déplier encore. Il y a des effets, je dirais, éthico-psychiques. On va être délivré de la question du self-arbitre, de la servitude volontaire, ou même du malin génie de Descartes, qui est toujours une sorte d'inquiétude sur « est-ce bien moi ?» Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis aligné? Ou est-ce que c'est vraiment moi? Et donc, là, il y a l'idée que le soi le plus profond, qui est le plus profond de moi, en fait, ça m'échappe. Le qui suis-je le plus radical, il m'échappe. Il ne m'appartient pas. C'est quelque chose dont qui n'appartient qu'à Dieu. Et donc, je ne peux pas, moi, en quelque sorte, me produire mon propre... ce que je suis moi-même devant Dieu. C'est un point qui m'échappe, c'est un point qui ne m'appartient pas. Et du coup aussi, je vais regarder les autres comme s'ils étaient sauvés. Ce n'est pas un savoir, c'est je fais comme si. Je n'ai pas à m'en occuper, mais je regarde tout le monde comme s'il était sauvé. Et donc du coup, vous voyez, là encore, ce n'est pas du tout une irresponsabilisation. Au contraire, ne pas savoir, ça veut dire qu'il y a un point qui échappe à tous les déterminismes, à tous les destins, à tous les destinations et les fatales, astrales, psychologiques, sociales, etc. Et c'est un point où je suis responsable. Responsable, y compris sous la forme de la gratitude. Remercier, c'est déjà une manière d'être adulte. De dire merci, c'est déjà une manière de reconnaître tout ce que l'on doit. Et donc, il y a cette fondation d'une responsabilité. Deuxième versant des effets de la doctrine de la prédestination, c'est des effets théologico-politiques. Si vous voulez, c'est l'idée qu'on va trouver chez Pierre Bayle, comme il dit que les droits de la conscience sont directement les droits de Dieu même. C'est-à-dire que, quelle que soit notre condition, nous n'en savons rien, nous ne pouvons pas mettre la main dessus, et si nous-mêmes nous ne pouvons pas mettre la main sur notre propre conscience, les savants, les prêtres, le roi, les dragons, ne peuvent pas mettre la main là-dessus. Il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui échappe au roi, qui échappe au prêtre, qui échappe au savant, qui échappe à tout le monde, et qui m'échappe même à moi-même. J'y peux rien, dit Bayle. Il dit ça sans cesse. C'est encore un effet de la doctrine de la prédestination. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Et donc, il y a, à l'abri de la doctrine de la prédestination, dans le monde moderne, se forme une sorte de domaine intime, subjectif, plus très radical, si vous voulez, quelque chose qui, il y a une case vide, qui suis-je, mais qui est plus, voilà, avec la reconnaissance qu'il y a une dimension qui m'échappe, quelque chose dont je ne suis pas le maître. Il y a aussi, ça développe aussi le sentiment du hasard des places, que nul ne mérite jamais où il est, qu'il y a une sorte de tirage au sort. Mais vous voyez, si la prédestination était réellement ce fatalisme qu'on en a fait, pourquoi cette explosion protestante d'activisme, de liberté, je dirais même de confiance en soi, vous voyez, qu'on trouve chez Emerson par exemple. Vous voyez, ça va ensemble. Voilà. Je parlais de Bayle, je voudrais juste, faut pas que je sois trop long, mais dire qu'il y a autour de Bayle justement toutes sortes de un regain du scepticisme antique qui est très intéressant, un regain du scepticisme cognitif, démanteler ce qu'on croit savoir, il y a une sorte de un doute théologique aussi, qui conduit à un certain fidéisme, l'idée que la religion est dans le cœur, qu'il faut sortir des querelles dogmatiques, qu'on retrouve chez Kant avec cette idée qu'il faut limiter le savoir pour faire place à autre chose, qu'il y a des domaines différents, il y a différents domaines qui se limitent mutuellement, qui va d'ailleurs jusqu'à la morale de Kant, qui ressemble peut-être un petit peu à ce que Christophe Deltombe disait, si j'ai bien compris, lors de sa conférence. C'est vraiment l'impératif catégorique, inconditionnel. C'est justement, entrer dans la vie morale, c'est rentrer dans un domaine où je ne cherche pas à savoir, je ne veux pas le savoir. Non pas au sens où le caporal va dire au soldat « je ne veux pas le savoir », mais au sens où « je ne veux pas le savoir », je ne vais pas savoir quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. L'éthique, le devoir, il est inconditionnel. C'est maintenant, c'est tout de suite, de manière inconditionnelle. Voilà, ça c'est Kant, ça c'est encore un effet. Et puis, encore une autre ligne qui va être très importante, c'est le doute, le relativisme culturel, le doute sur nos propres cultures. Ma culture n'est pas la seule, il y en a d'autres, il y a d'autres évaluations du bien et du mal, je ne prétends pas connaître. Il n'y a pas une culture universelle, il n'y a pas un savoir universel. Il faut savoir qu'on est toujours d'un côté et qu'il y a d'autres côtés possibles. Alors je vais terminer en revenant à aujourd'hui, en repartant un peu de la prédestination. Aujourd'hui, on a des déterminismes extrêmement forts, déterminismes génétiques, pseudo-scientifique d'ailleurs, scientifique au sens très techniciste, on sait tout, et à ce moment-là on pourrait dire à la limite, pourquoi payer des études à quelqu'un qui de toute façon ne va jamais rien en faire, pourquoi faire des dépenses de santé pour quelqu'un qui de toute façon est programmé pour avoir une maladie très vite, ou un jour, quoi. Pourquoi même laisser naître quelqu'un dont il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. Vous voyez, c'est ça le problème, je dirais, de ce que on pourrait appeler le manque de voile d'ignorance, le manque de cette décision kantienne, je viens de la dire, ou à la Bayle, accepter de dire je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Il y a un voile d'ignorance. Il faut remettre chacun derrière un voile d'ignorance. Et ça, c'est un acte, c'est une décision. Il faut dire on ne sait pas. On ne sait pas qui est chacun. Chacun est derrière un voile d'ignorance. On ne peut pas tout savoir de quelqu'un. On ne sait pas tout de quelqu'un. Et vous voyez, je dirais la prédestination, c'était exactement cette idée-là. En chacun, il y a quelque chose que Dieu seul sait et que nul ne sait jusqu'à sa mort, que nul ne sait même de lui-même et que personne ne peut savoir. On a aussi des déterminismes sociétaux. Je pense à la sociologie des big data. Les big data, c'est vraiment un phénomène ultra contemporain, Hein, vous voyez, avec des algorithmes qui, en quelque sorte, peuvent, quelque part, savent tout de nous. Hein, si on fusionne toutes les banques de données et si on les analyse statistiquement avec des algorithmes un peu intelligents, on sait tout de nous, on sait tout de nos choix, de nos préférences, de nos habitudes, de nos attachements, de nos rêves, de ça. Et donc, à la limite même, on disait que les big data pouvaient choisir mieux que nous ce que nous souhaitons. Elles savaient mieux que nous notre désir et ce que nous souhaitons. J'ai envie de dire justement, face aux big data, la doctrine de la prédestination, c'est justement la possibilité d'être encore tout autrement. La prédestination brouille complètement la doctrine, la prétention des big data, si je peux dire. Justement parce qu'il y a quelque chose en nous qui échappe, à ces algorithmes qui redondants, qui nous enserrent dans ce que nous sommes, et qu'on ne peut plus être que ce que nous sommes de plus en plus, si je peux dire, voyez, de manière... Et il me semble que face à ces grands déterminismes contemporains, les religions amènent quelque chose de très original. Les religions, je ne sais pas de quoi je parle exactement, parce que c'est un mot extrêmement flou, mais les religions ne sont pas des machines à croire, c'est des machines qui proposent des formes de vie, qui donnent une cohérence dans laquelle tout dans ma vie se rapporte à quelque chose que je ne sais pas, quelque chose que je ne peux pas entièrement expliciter, que je ne peux pas entièrement expliquer, dont je ne peux pas changer comme de chemise, mais en même temps, c'est une cohérence inachevée, elle est instable, elle est active, je peux encore changer, et je peux encore changer même complètement. C'est-à-dire, voyez, il y a quelques jours, le film « Hors dette », dans lequel quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison dans son luthéranisme, soudain, à la fin du film, il relit un passage biblique et ça le bouleverse et il va demander pardon à son vieil ennemi et ça. Mais c'est une scène absolument bouleversante. Donc comment la foi est aussi quelque chose qui peut déplacer les montagnes, déplacer tout ce que je suis, tout ce que je au plus profond de cette totalité. Voilà. Donc j'ai envie de dire, les religions sont quelque part aussi moins des machines à installer des dogmatismes qu'à des machines à installer des équivoques, des symboles qu'on peut interpréter diversement, des paraboles à interpréter, bref, des doutes durables, des machines à intriguer, à installer des perplexités, des machines à augmenter la dose d'incertitude supportable psychiquement par les sujets et supportable collectivement. Il me semble que c'était ça qui est au cœur du destin, si j'ose ce mot maintenant, de la civilisation européenne classique, si je peux dire, qui est en même temps Socrate qui fait cercle, qui nous introduit, qui symbolise, si je veux dire, ce cercle autour du pouvoir commun de questionner, d'interroger, de je ne sais pas, et ça relance sans cesse la forme circulaire qui va être celle de la démocratie, qui est aussi celle de l'esprit scientifique, dans lequel on peut toujours réinterroger, re-questionner. Mais aussi, d'une certaine manière, on l'a vu avec Jésus, il y a aussi cette forme de cercle. Alors maintenant, je dirais, on a eu un excès de dogmatisme, aujourd'hui, et on était trop crédule, aujourd'hui, on est peut-être trop sceptique. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est quoi notre scepticisme? Je veux dire, on est trop méfiant, on peut tout critiquer, on peut tout soupçonner, on peut tout déconstruire, on est trop sceptique. Et je dirais, il y a un excès de scepticisme à l'égard du monde. Le monde, ça n'existe pas. Chacun est dans sa bulle, justement, encapsulé avec ses algorithmes, dans ses opinions, dans son imaginaire, dans sa bulle langagière, dans sa bulle religieuse, avec d'ailleurs un certain scepticisme scientifique. Hein, puis en gros, il n'y a plus de science, il n'y a plus de monde commun. On est une sorte d'archipel. Le monde n'est plus, a éclaté en archipel de bulles dont on ne sait plus quel est qu'elles ont ensemble. En gros, de toute façon, le monde, il est foutu. Ce que nous disent les grands films contemporains, Interstellar, il ne s'agit plus de sauver le monde, mais de le quitter. Notre monde, on va l'abandonner. En gros, c'est sauf qui peut, il faut se retirer du monde commun. Oui, donc il y a un réel scepticisme à l'égard du monde, qui contemporain, peut-être de la puissance technicienne, par laquelle nous pouvons prétendre nous refaire un monde complet en dehors du monde. Il y a aussi un excès de scepticisme culturel, je reprends les deux ou trois points que j'avais traversés. Scepticisme culturel, je veux dire, on est dans le tourisme général. Les cultures, on peut se promener, on peut, On peut être bouddhiste, on peut être allemand, on peut être... Vous voyez, on est dans un Disney World généralisé, si je puis dire, en termes de culture. Et Ricoeur disait, on risque de sombrer dans un monde où il n'y a plus que des autres. Il n'y a plus que des autres. Mais en fait, dit-il, j'ai une culture, j'ai une langue, comme j'ai un corps, ça fait partie de... Et il dit dans ce texte, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut aussi accepter sa propre limite, il faut accepter d'être d'un côté pour qu'il y ait un autre côté. S'il n'y aura pas d'autre côté, s'il n'y a pas un côté, ça va ensemble. Et justement, je vais terminer là-dessus, le scepticisme, c'est aussi le scepticisme à l'égard de soi, du sujet, à l'égard d'autrui. Je dirais il me semble que tout ce qu'on a traversé, le bail à Ricoeur et avant, il y a d'autant plus une capacité de doute, une capacité de critique, qu'il y a aussi une capacité d'attestation, de conviction, de confiance. Il y a quelqu'un qui ne peut s'appuyer sur rien, il ne peut rien critiquer d'une certaine manière, il ne peut rien déconstruire. Bon. Et aussi, d'un autre côté, c'est parce que j'ai confiance dans ma parole, ici je me tiens, disait Luther, que je peux avoir confiance dans la parole d'autrui, dans la sincérité d'autrui, faire crédit à la sincérité d'autrui. Alors voilà, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois dans un monde sceptique et dans un monde dans lequel il y a des gens qui savent. Ils savent en politique, ils savent en théologie, ils savent en philosophie, ils savent, etc. Bon, en théologie aussi. Donc, c'est-à-dire, ils ont raison. Ils ont raison tout seuls. Et je pense que c'est ce « j'ai raison tout seul » qui est justement le comble du scepticisme. Il me semble que la prétention à savoir, à ce savoir-là, obture complètement le rapport à l'autre, et que le doute aujourd'hui, le doute le plus intime, c'est pas seulement la perte du monde, c'est le mur qui nous sépare et qui nous éloigne des autres, de l'autre, de ce que j'appelais tout à l'heure l'autre côté. C'est ça, aujourd'hui, j'irais le cœur du scepticisme qui m'inquiète. C'est le solipsisme, c'est le chacun est dans son monde, chacun est dans sa vie, chacun est dans son salut. Et comment est-ce qu'on va transgresser la solitude? Comment est-ce qu'on va transgresser ce solipsisme? Comment est-ce qu'on va transgresser cette incapacité à partager, cette incapacité à toucher quelqu'un d'autre, à être touché par quelqu'un d'autre? C'est là qu'une pensée comme celle de Wittgenstein, j'avais prévu de développer un peu Wittgenstein, je ne vais pas le faire, qui reprend cette grande tradition apophatique. Son premier traité se termine par « ce qu'on ne peut dire, il faut le taire ». Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut que montrer. Voilà. Donc ça a à voir avec le « je ne sais pas ». Je ne sais pas le dire, je ne peux que le montrer. Bon. Voilà. Et aussi, d'ailleurs, j'avais prévu une citation de Ricoeur qui est autre chose, mais qui touche à cette limite dont je parlais tout à l'heure. Il dit « ainsi l'ontologie, l'être, est bien la terre promise pour une philosophie qui commence par le langage et par la réflexion, mais comme Moïse, le sujet parlant et réfléchissant peut seulement l'apercevoir avant de mourir. » Vous voyez, donc il y a cette dimension de limite, je ne sais pas, je ne pourrais pas atteindre le royaume, la terre promise. Voilà, donc il y a cet sens de la limite. Mais on peut, et c'est ça que en reprenant appui sur Wittgenstein, sur Ricoeur, j'aurais pu l'étayer un peu plus, mais je vais juste le dire, on peut transgresser le solipsisme, la prétention à savoir tout seul, que à deux, à plusieurs. Et il me semble que là, que je reviens maintenant sur les textes bibliques que j'avais mis en attente, il me semble que justement chez Paul, il y a en même temps, soudain, un point où nous avons l'esprit, là il y a un trop de savoir, il y a un trop d'assurance. Alors, je ne dis pas que Paul est tout le temps comme ça. Paul, il bouge tout le temps, il est très difficile à saisir. Mais ce passage-là, soudain, je me dis, il exagère. Et peut-être que ça a à voir avec sa conception de la femme. Je le mets en lien comme ça, vous voyez. Avec sa quasi misogynie, ça a à voir avec aussi sa conception que ce qu'il y a de mieux, c'est la virginité. Seul avec Dieu. Revenons à la Genèse, comme l'ont fait les réformateurs. Revenons à la Genèse. La virginité, la chasteté, c'est pas ça. C'est pas ça, il faut revenir. Et on a aussi, alors là on a un trop de savoir, de l'autre côté on a une sorte de trop grand scepticisme, presque désabusé dans l'Ecclésiaste, quand soudain il dit « la femme est ta mère ». Il n'y croit plus. Il n'y croit plus à la possibilité de rencontrer la femme, l'homme au sens masculin, chacun pour l'autre, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. C'est aussi là aussi une parabole. La femme, dans le couple, ça peut être la femme pour une femme, l'homme pour un homme. C'est juste que l'un pour l'autre, dans le couple, c'est l'autre côté. C'est-à-dire ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne connaissons pas. Et justement, en même temps, parce que nous ne le connaissons pas, parce que c'est ignorant, c'est ça qui nous délivre de la suffisance, de la prétention à savoir, d'un côté, ou du solipsisme sceptique et solitaire, de l'autre. C'est pour ça que je trouve que la formule « il n'est pas bon à l'homme d'être seul », elle est foncièrement liée à accepter de ne pas savoir. Amen.
Voici le moment de confesser notre foi avec ce texte de l'église anglicane de Sheffield. Je crois à la force créatrice agissant en toutes choses et en interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toutes choses et je crois en elle. Je crois à la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre les forces négatives de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience afin de promouvoir la justice et le fair-play. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celle de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu, tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas que je suis sauvée par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non, ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé. J'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort. Je crois en l'esprit. Je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur, que tous s'unissent », c'est le numéro 223, les deux premières strophes. Des places. Merci infiniment, Olivier, d'avoir ainsi élargi notre horizon, notre espace, notre temps, d'avoir ouvert notre compréhension et puis de nous avoir d'avoir engagé notre ignorance, notre non-savoir dans cette dynamique de, de liberté et de gratitude. Merci aussi à Benjamin, voilà, de la librairie protestante qui est venue pour proposer un stand de livres auxquels nous pourrons nous fournir pour nous nourrir et pour continuer à réfléchir, à penser et à comprendre nos vies et le monde et notre foi. Il y a parmi nous aussi aujourd'hui quelques représentants de la branche aînée des scouts du Faubourg Saint-Antoine, les FSA, pour une action particulière que je les invite à venir nous présenter. Après tout, c'est mieux que ce soit eux qui en parlent.
Ouh, ça fait du monde. Oui, tant mieux, mais j'ai le trac. Bonjour à tout le monde, déjà. Donc, comme on vient de le dire et comme ça peut se voir, on est aînés, scout. On appartient au foyer de l'âme ici. On a nos locaux juste à côté. Et du coup, on est ici pour faire une vente de gâteaux, pour pouvoir financer nos projets de cette année, qui consiste à faire un camp pour... réunir l'équipe autour d'un projet qui va nous faire vibrer tous ensemble et qu'on fera l'année prochaine ou l'année d'encore après en fonction de l'organisation et du temps qu'il faudra pour préparer ça. Et du coup on sera juste dans l'entrée avec ce serait soit de faire un voyage ou on irait quelque part, on ne sait pas encore où. Pour l'instant, on ne sait pas encore où, c'est à décider. Et le projet, ce serait d'aller dans cet endroit pour soit donner un coup de main à une association, soit donner un coup de main dans une ferme ou quelque chose comme ça. Il faut déjà qu'on arrive à trouver le projet qui nous fasse tous vibrer. Et donc pour l'instant, on est en train de préparer le camp de cet été qui nous permettra de trouver les passions de chacun. On n'est que première étape. C'est l'année prochaine qu'on fera le grand projet. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Et je profite aussi d'être là pour dire que du coup, on sera juste dans l'entrée avec les gâteaux. Et si vous voulez... nous appeler pour un déménagement, pour un coup de main ou je sais pas quoi, vous nous demandez et on peut vous donner un numéro ou une adresse mail. Et après, vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Merci.
Merci. Ce numéro, cette adresse mail se trouve aussi dans le bulletin de l'amitié. Et sur le site. Merci Isabelle. Alors, comme c'est dimanche, premier dimanche du mois, cet après-midi à 17h30, donc il y aura une cantate qui sera offerte ici, la cantate BWV 113, donc qui est adossée à un cantique de Carême qui avait été écrit par un théologien à la fin du XVIe siècle, Bartholomew Stringwald. Et c'est une cantate donc comme un relèvement de l'humain, du fond de l'accablement, avec le don de la grâce. C'est une œuvre pleine d'espérance, donc à 17h30 aujourd'hui. Dans la semaine qui vient, alors il y a plusieurs choses à retenir. Mardi à 11h45, c'est la pause biblique qui commence toujours par une restauration et un partage d'un excellent encas préparé par Nicole. Dans la pause biblique, nous attachons à la notion de résurrection cette année. Et là, mardi, nous ferons notre entrée dans le Nouveau Testament avec un texte de l'apôtre Paul dans la première aux Thessaloniciens et aussi avec un texte de l'Apocalypse. Voilà, donc cette pause est ouverte à tous ceux qui veulent y participer. Il en est de même pour le groupe de partage biblique qui se réunira mardi 5 à 19h30, qui a commencé depuis octobre une lecture du livre d'Ésaïe, alors des extraits, pardon, c'est même Oui, mercredi, le groupe biblique, mercredi 5 à 19h30. Et nous lirons là des extraits des chapitres 1, 33 et 58 pour comprendre la critique sociale et religieuse d'Ésaïe. Et nous parlerons beaucoup de justice. Vendredi 6 à 20h, c'est le repas des JMJ, jeunes et moins jeunes, donc pour tous les âges, où l'on est aussi bienvenu. Il suffit d'apporter quelque chose à partager avec tous ceux qui sont là. Et nous en écouterons Joël nous parler de Marc Bogner, du pasteur Marc Bogner, qui a beaucoup œuvré pour l'unité du protestantisme. Il a été président de la Fédération protestante de France, il a été président du Conseil national de l'ERF, il a été représentant du protestantisme français au comité œcuménique des églises, il a été membre de l'Académie française et il était aussi juste parmi les nations. Pour ses interventions, les nombreuses interventions en faveur des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez en connaître, le connaître un peu mieux, eh bien voilà, c'est vendredi 6 à 20h. Samedi 7, eh bien c'est le groupe Ciel et Terre qui se réunira et qui poursuivra sa réflexion commune sur l'amour. Un thème particulièrement prolifique, si j'ai bien compris ce qui s'est passé à la séance dernière. Donc, il y a beaucoup à dire. Et samedi 7, eh bien, un peu comme une continuité à la réunion du matin, à partir de 12h30 et jusqu'à 18h, il y aura une grande braderie de livres d'occasion d'un salon de thé aussi ici. Il y aura aussi la librairie protestante, Benjamin, samedi prochain. Hein, c'est ça. Particulièrement parce qu'à 15h, il y aura une conversation entre Marie Balmary, Bernard Cotteret et Denis Guénoun sur le thème « L'amour de soi, l'amour du prochain » avec signature de leur livre par les auteurs. Donc voilà, une grande journée ou une grande après-midi et en tout cas cette conversation à 3 à 15h dans le temple. Notre amie Nicole Gigliotti, qui s'occupe de cet événement, demande un peu d'aide pour commencer à l'installation et commencer dès le mardi 10 à 10h30. Donc si vous avez du temps pour cela, mardi 10 à 10h30, merci de vous signaler à Teresa, qui est là-bas au fond, voilà, qui prendra vos coordonnées et vous donnera tous les renseignements. Oui, pardon, mardi 3, oui, évidemment, mardi 10, ce serait après. Merci de rectifier. Et dimanche 8, donc dimanche prochain, il y aura bien sûr le culte à 10h30 et nous accueillerons au cours de ce culte Sophie Ollier, qui est pasteur de l'Église protestante unie dans la paroisse du Mans et qui viendra apporter la prédication dimanche prochain. Et puis, il y a d'autres annonces pour lesquelles Michel et Dominique, voilà, vont nous dire quelques mots.
Bonjour. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers de cet endroit, vous ne me repérez pas tout de suite, mais sans quoi je suis responsable de la diffusion de l'Évangile et Liberté. Donc j'en ai un paquet sur le bras que je vous donne volontiers pour que vous puissiez découvrir et par la suite vous inscrire. C'est une revue, c'est un mensuel de théologie libérale où vous retrouverez parfois des articles d'Olivia Bell, des articles de Dominique. Et puis avec ce journal, il y a une association qui organise le premier week-end d'octobre à la Grande Motte un colloque sur le thème. Et l'an prochain, le thème sera sur la laïcité. Donc je tiens à votre disposition tous ces journaux pour vous les donner à la sortie si vous voulez vous renseigner mieux. Merci.
Merci Michel. Bonjour. Moi je voudrais retenir un peu de votre temps. Et parce que je ne crois pas à la fatalité, justement, j'ai accepté d'accueillir un jeune Guinéen qui a un rendez-vous avec un avocat le 3, un rendez-vous à la CNDA le 5, et je suis complètement, je l'héberge, mais je suis complètement disponible le 3, le 4, le 5. J'ai mes amis du 20e. Alors, j'habite au 20e, mes amis du 20e ne sont pas très disponibles non plus, enfin ceux que je connais. Donc je profite là que vous êtes nombreux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait accompagner ce jeune homme jeudi après-midi. Je crois que quelqu'un pourra l'accueillir mercredi pour dîner, si j'ai bien compris. Mais jeudi, pour son rendez-vous à la CNDA, si quelqu'un pouvait, je peux le rapprocher, je pense qu'il se débrouille, il est parfaitement francophone, je peux l'accompagner chez l'une d'entre vous. Mais voilà, si, la CNDA c'est à Montreuil. Voilà, si quelqu'un pouvait, moi je dois partir à 9h30 de chez moi jeudi, mais je peux le mettre sur la route, ou quelqu'un qui peut le recueillir jeudi et ensuite le raccompagner à Bercy. Merci beaucoup.
Oui, c'est à propos des textes des conférences qui, comme tous les ans, seront édités. Olivier Abel, sa conférence de ce matin va être transcrite. Et donc, normalement, si tout se passe bien, je pense que nous devrions pouvoir avoir les textes dès la semaine prochaine. Sinon, ça sera la semaine suivante. Et donc, ils seront au prix de 10 euros si vous les achetez sur place. Et si vous souhaitez qu'on vous les envoie, ils seront au prix de 15 euros, puisqu'il faut quand même bien payer les frais de port. Voilà.
Ah oui, après le culte, premier dimanche, effectivement, il y a encore un temps convivial. Alors là, ça va être l'apéritif, les gâteaux des scouts et la librairie. Donc, que de bonne nourriture à partager. Merci aussi à Brigitte, à Valérie et à Christine pour la transcription, la retranscription des conférences, qui est quand même un travail très important et qu'elles font très rapidement et de manière extrêmement efficace. Et merci beaucoup pour tout ce travail à vous trois. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres annonces ? Alors voici le moment de donner une forme à la joie. Et c'est celle de l'offrande qui permet à l'Église, eh bien, d'être Église pour les autres. rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Père, fais monter encore en nous et toujours ton Esprit Saint, souffle de vie, pour que, libérés par ta parole, nous marchions ensemble au milieu des déchirures du monde et nous proclamions la bonne nouvelle de la réconciliation, de la libération et de la justice. Dans la paix, dans un esprit de paix, nous nous tiendrons dans les lieux de conflit en offrant respect, écoute et dialogue. Dans la joie de l'esprit de résurrection, nous marcherons dans les lieux de l'exclusion et du désespoir, en témoins et compagnons d'humanité, dans la promesse de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi causé par tous les mépris et les pertes d'identité, en discernant les signes de ton amour de Père. Et c'est confiant en cet amour que nous pouvons dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos proches et au milieu d'inconnus, où que nous allions, où que nous soyons, Dieu se rend proche et proche, il nous accompagne. Il nous aime et nous garde en son amour. Allons en paix. Amen. Et nous chanterons au 391 sur le chemin avant de nous rasseoir pour écouter l'orgue.